Nous lisons dans Jean chapitre 10, les versets 22 à 30. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Les autorités juives firent cercle autour de lui et lui dirent: si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage, mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Le texte de l'évangile du jour nous conduit dans les allées du temple de Jérusalem où Jésus semble faire les 100 pas à l'occasion de la fête de la dédicace, également connue sous le nom de Hanouka. L'évangéliste précise que nous sommes en hiver, si bien que l'on pourrait imaginer que Jésus marche, peut-être pour se réchauffer. C'est au cours de cette marche qu'un groupe de personnes s'approche de lui et l'encercle. Leur interpellation commence par ce qui s'apparente à une plainte. « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens ?» L'expression « jusqu'à quand ?» fait entendre un cri d'attente, une sorte d'exaspération. Ceux qui se demandent « jusqu'à quand ?» sont usés par l'incertitude, exténués de ne pas savoir si l'homme qu'ils ont devant eux est oui ou non le Christ. Ce cri rejoint une tradition biblique des gens qui, en manque de repères, vont aussi crier à Dieu la même chose. On peut lire dans le psaume 13 au verset 2 « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse ?» La traduction de la phrase de l'Évangile qu'on vient de lire, « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens ?» pourrait aussi être traduite de manière un petit peu plus littérale, ce qui donnerait « Jusqu'à quand soulèveras-tu notre âme ?» Le mot « âme » ici, c'est « psyché » et désigne l'ensemble de la vie intérieure d'une personne, tout ce qui respire, tout ce qui bouge en lui. On comprend alors que le groupe qui interpelle Jésus se trouve dans un état de trouble intérieur profond, se trouve dans un état où l'intériorité ne parvient plus à se poser. Être tenu en suspens signifie être privé d'appui, de sol, de toute assise possible. Dans cette perspective, on pourrait évoquer, dans un registre plus quotidien, on pourrait penser à ces figurines suspendues qu'on a parfois accrochées au rétroviseur de nos voitures. Ces figurines sont maintenues par un fil et elles sont constamment ballottées au gré des mouvements de la voiture, au gré des virages qu'elle prend, des secousses, et sont exposées sans jamais pouvoir se poser. L'image dit quelque chose de cette vie intérieure en déséquilibre, cette vie qui n'arrive pas à trouver un sol. Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens? Ce sont des mots très forts prononcés à Jésus. Le ministère de Jésus trouble visiblement, trouble la cohérence même du monde intérieur de ses auditeurs. Et au fond, cette parole révèle la fatigue de ceux qui cherchent une réponse pour stabiliser leurs attentes du Messie. Ils cherchent à être rassurés, mais se heurtent à une voix qui, au contraire, les déplace, les déstabilise. Jésus est perçu ici comme celui qui met en péril les repères, celui qui ne clôt rien, celui dont la parole ouvre à autre chose que leur attente. Or, eux, ils veulent savoir. Ils veulent que leur savoir soit confirmé. Et c'est précisément ceux dont l'attente messianique repose sur une figure bien définie, qu'elle soit politique, qu'elle soit royale, guerrière. C'est ces gens-là qui se retrouvent le plus déstabilisés. Ceux qui attendent un Messie conforme à leur image, à leur projection, attendent une figure qui vienne remplir les contours déjà tracés de leur espérance. C'est dans cette tension que s'élève leur demande à la suite de cette première interpellation. Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. Le mot grec traduit ici par ouvertement est parésia. Et dans la culture grecque, il désigne le privilège d'un citoyen romain de parler sans détour, sans parabole, de parler ouvertement, de dire la totalité de sa pensée dans l'espace public. Et c'est un droit qui lui permet aussi de ne pas craindre le pouvoir public. Parler avec parésia, c'est donc s'exposer entièrement, c'est dire toute sa pensée et la soumettre aussi à la critique des autres. Et donc, en ce sens, c'est un véritable acte d'engagement. Et c'est précisément ce que Jésus ne fait pas. Il ne répond pas à leur demande de se donner dans un titre. Il poursuit au contraire son discours en parabole ou en image. Il ne parle pas en parésia. Il faut reconnaître que parmi toutes les images que Jésus emploie dans le texte du Nouveau Testament, le sel, le grain de moutarde, le pain, etc., celle du disciple comparée à une brebis ou à un mouton demeure pour l'auditeur contemporain l'une des plus difficiles à recevoir. Le mot français « brebis » qu'on trouve dans la plupart des traductions vient du mot grec « probaton » qui désigne simplement un animal de troupeau. Donc ce mot peut très bien être traduit par « brebis » mais aussi par « mouton ». Or, dans la quasi-totalité des traductions françaises, si vous ouvrez vos Bibles, on retrouve souvent le mot « brebis ». Et c'est sans doute pour atténuer l'effet d'un mot devenu trop chargé, le mot « mouton ». Parce qu'en français courant, « mouton » évoque spontanément l'image d'un être sans discernement, d'un être qui suit sans réfléchir, qui n'a pas de voix, qui n'a pas de volonté propre. Et cette charge affective agit sur notre réception du texte. Nous hésitons à nous identifier à cette figure du mouton, à cette figure vulnérable que rien ne semble protéger, parce que c'est un animal qui n'a aucune ruse. C'est un animal qui n'a pas vraiment de stratégie de défense, qui n'a pas de griffes, qui n'a pas de crocs, qui ne peut pas vraiment crier très fort. Et en soi, le mouton, il bride aucun éclat. Pourtant, c'est bien cette figure que l'Évangile nous propose pour penser le disciple. Et dans la société pastorale antique, il faut dire qu'il avait beaucoup de sens. Mais quel est alors l'intérêt de penser le disciple à partir de la figure du mouton, de la brebis? Peut-être justement cette fragilité même. Le Christ lui-même est désigné ailleurs comme agneau, c'est-à-dire le petit de la brebis, donc un être encore plus exposé, encore plus dépendant. Et il faut dire que dans cette image se joue un retournement de valeur qu'on retrouve ailleurs dans le texte biblique. Au fond, ce qui n'a ni d'éclat ni de puissance devient, dans plein d'endroits du texte biblique, le lieu où la manifestation du pouvoir divin est possible. Ce n'est pas le fort qui dit Dieu, mais le vulnérable. Mais le mot probaton, donc mouton ou brebis, ne dit pas simplement la fragilité. Il porte aussi une notion dynamique. C'est un mot qui est issu du verbe probaino, qui désigne littéralement celui qui avance, celui qui se met en mouvement. Donc le mouton ici, c'est un animal du troupeau qui se met en mouvement, qui avance vers. Et donc cela change un petit peu notre regard, parce que du coup le disciple mouton ou le disciple brebis n'est pas une figure passive, mais devient celui qui répond à une voix, celui qui marche, celui qui s'engage. Et c'est là le cœur de l'image, non pas l'obéissance d'un être soumis, sans volonté, mais la confiance d'un être quand même assez éveillé. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles viennent à ma suite. Le disciple mouton est donc celui qui se met en route à l'appel d'une voix. Et il faut souligner que les moutons dont parle Jésus ne sont pas tout à fait idiots. Ils ne se mettent pas en route par réflexe, mais parce qu'ils entendent une voix et ils savent à qui elle appartient. Ce sont des vivants donc capables de reconnaissance, d'orientation, de réponse. L'essentiel de la métaphore est donc ce lien de confiance entre celui qui appelle, celui qui ouvre un chemin, et celui qui écoute, discerne et s'y engage. Et on retrouve déjà cette dynamique dans le récit de l'appel d'Abraham. Dieu lui dit, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Quitter son pays, sa maison d'origine, pour aller vers un lieu pas encore désigné, c'est quand même une démarche assez étonnante. Dieu appelle Abraham à se mettre en marche, et c'est dans le mouvement même que le pays promis va se dévoiler. Mais cette parabole, cette parole de Dieu qui appelle, si elle appelle à avancer, repose d'abord sur une connaissance préalable de celui qui fait l'appel. Et c'est ici que la métaphore des brebis vient éclairer un autre aspect de la foi. Le pasteur connaît ses brebis. Logiquement, on peut dire qu'avant même que les brebis ne se mettent en marche, elles sont déjà connues, puisqu'elles sont appelées. Et en ce sens, nous avons souvent tendance à penser la foi comme un savoir que nous avons sur Dieu, une manière à nous de connaître Dieu, de le nommer, de porter un discours sur lui. Donc quelque chose qui vient de nous vers Dieu. Mais ici, croire, il me semble que ce n'est pas d'abord connaître Dieu, c'est se découvrir comme connu de lui, à l'image de la brebis qui se découvre appelée. Donc quand elle est appelée, elle se découvre connue. On retrouve cette idée dans la lettre aux Galates, quand Paul écrit à cette communauté en disant « Vous avez connu Dieu, ou plutôt, vous avez été connu de Dieu. » Donc la foi n'est pas d'abord une démarche initiée par l'homme vers Dieu, mais une réponse à une initiative qui vient de Dieu. Et pour appuyer cette idée, un peu plus tôt dans cette même lettre, Paul revient au moment de sa propre conversion en ces termes. « Celui qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a estimé bon de révéler en moi son Fils. » Autrement dit, le jour de conversion, Paul n'a pas connu Dieu. Il s'est reconnu comme connu de Dieu. Et c'est peut-être cette antériorité, le fait d'être connu avant même d'avoir pu répondre, qui permet à Jésus d'ajouter cette parole de promesse. « Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » Si la foi repose sur ce lien premier, elle ne dépend plus de la constance de notre volonté, mais de la fidélité de celui qui connaît, qui appelle. Si la foi est ce savoir intérieur d'être reconnu, alors elle n'est pas menacée par nos écarts, elle n'est pas menacée par nos silences, par nos lenteurs. Nous, on peut se détourner, on peut se perdre, on peut s'effondrer, mais rien ne peut empêcher le Christ de nous connaître. Et c'est dans ce contexte qu'on entend cette parole audacieuse de Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. On peut dire simplement que le Christ révèle Dieu et simplement commenter que dire Dieu, c'est reconnaître l'essentiel de cette bienveillance entre le pasteur et son mouton ou sa brebis, entre celui qui connaît et appelle et celui qui écoute. C'est entendre derrière le mot Dieu, qui peut signifier mille et une choses, la voix du Christ qui appelle. Écouter Dieu, suivre Dieu pour nous, c'est nous savoir connus du Christ, et dans cette connaissance, nous savoir aimer de Dieu. Amen.